Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous voici donc déjà en octobre, mois de la reprise pour la saison lyrique à l'Opéra National du Capitole et mois où se tient traditionnellement Toulouse des Orgues, un des plus importants festivals de l'année à Toulouse et dans notre région. La 27e édition a lieu du 5 au 16 octobre. Nous vous avions présenté sa programmation la semaine dernière avec notre invité Yves Rechsteiner, le directeur artistique de la manifestation. Beaucoup d'événements dans l'actualité musicale en ce moment donc. Pour vous les présenter, je reçois une nouvelle fois Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge est en bonne compagnie aujourd'hui puisqu'il est entouré de son alter ego à Classique Toulouse, Robert Pénavert, également chroniqueur pour le site Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et de Serge Krichewski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre en harmonie, membre des Clés de Saint-Pierre et président du festival Musique au Palais. Nous allons revenir sans plus attendre sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue aussi à vous trois, ravis de vous retrouver, d'autant plus qu'il y a longtemps que nous n'avions pas été réunis tous les quatre dans ce studio. Nous allons commencer ce retour sur l'actualité musicale récente avec le concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole. Il a été donné le samedi 24 septembre à la Halle aux Grains bien sûr. Serge Chauzy y a assisté et Serge Krichewski y a participé. Un concert dirigé par Leo Quokman. La soliste invitée était la violoncelliste américaine Nina Kotova. Serge Chauzy va d'abord nous rappeler quelles œuvres ont été jouées ce soir-là. Et puis les deux Serges partageront ensuite avec nous leurs impressions respectives. Serge, qu'avez-vous entendu le 24 septembre à la Halle aux Grains ?
Eh bien, un programme très ouvert, très divers, avec tout d'abord une création, au moins à Toulouse, une œuvre de la compositrice sud-coréenne Aung Suk Chin, je ne garantis pas la prononciation, qui est née en 1961, donc une jeune compositrice, hein, et avec une œuvre qui s'appelait Subito con forza, je vais y revenir. Puis ensuite, il y avait l'œuvre avec soliste, donc qui était la variation, les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski, pour violoncelle et orchestre, et enfin une œuvre gigantesque, hein, sous tous les angles, qui était la Alpensymphonie, c'est-à-dire la symphonie alpestre de Richard Strauss, qui nécessite un orchestre d'une richesse opulente, on peut dire. Donc voilà, trois œuvres. Alors rapidement, la création, l'œuvre de Aung Suk Chin est une œuvre très courte, hein, à peine 5 minutes, hein, et c'était une œuvre qui a été composée en 2020 pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Donc vraiment un hommage. Et on l'entend tout de suite, cet hommage, puisque les deux accords qui ouvrent l'œuvre sont les deux accords de l'ouverture de Coriolan. Et puis tout au long de l'œuvre, courte œuvre donc, on entend quelques thèmes et évoquer, suggérer quelques rythmes.
Quelques citations.
Oui, on a droit à pom 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 pom. Hein, donc,
inévitable.
Oui. Donc très bien. Mais une œuvre très riche, très, très belle. Bon, que pour ma part, j'ai bien aimé.
C'est pas commun. Je crois que c'est la première fois qu'à la Halle aux Grains, il y avait une œuvre d'une compositrice, en l'occurrence sud-coréenne.
Sud-coréenne. Qui était gênée, hein, oui, bon. En effet.
On a vu des musiciens sud-coréens, ça oui.
Ah oui,
mais,
ça oui.
Compositrice.
Non mais c'est très bien, c'était très bien, une belle initiative. Ensuite, grand contraste avec ces variations sur un thème rococo de Tchaïkovski, avec donc la soliste russo-américaine en fait, hein, Nina Kotova, que pour ma part je n'ai que moyennement appréciée, je dois le dire. Hein. Bon, elle a une sonorité, une belle sonorité, mais parfois elle se laisse submerger par l'orchestre et on n'entend plus du tout.
C'est un peu embêtant.
C'est un peu gênant. Et puis, j'ai pour ma part trouvé qu'elle manquait d'une implication plus personnelle, hein, avec, on aurait aimé un phrasé un peu plus diversifié. Elle a quand même été bien applaudie et elle a joué en bis la sarabande de la suite numéro 3 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach un peu uniforme et un peu sage.
Voilà. Oui. Bon.
Voilà pour cette deuxième œuvre au programme. Et puis enfin, la nous avons respiré l'air vivifiant des cimes, c'est-à-dire avec cette magnifique symphonie d'un brio extraordinaire de Richard Strauss, la symphonie alpestre, donc, qu'il a composée entre 1911 et 1915. Alors, on sait qu'il aimait beaucoup la montagne, hein, puisqu'il a vécu beaucoup dans les Alpes, donc. Alors là, première surprise, Leo Quockmann, qui est un grand chef, dirige sans partition. Une œuvre aussi complexe, vraiment, ça surprend. Alors, je voudrais rappeler, donc, c'est au moins, si je me souviens bien, sa troisième venue à Toulouse. La première fois, c'était en octobre 2020.
Sachant qu'il a en plus dirigé l'orchestre lors d'une tournée en Arabie Saoudite.
Exactement. Donc, il commence
à bien connaître les musiciens
des liens
et la
entre
formation.
Ce chef et l'orchestre, et les musiciens de l'orchestre. Alors, belle direction, vraiment, hein, avec des sonorités de l'orchestre. On connaît les beautés de l'orchestre. Je ne le dis pas pour faire plaisir à Serge Krichevski, mais c'est vrai.
Il a l'air d'apprécier, quand même.
Oui, oui, oui. Et alors, ce qui est étonnant et vraiment impressionnant dans cette œuvre, c'est qu'il y a plusieurs fanfares de coulisses. Et donc, il y a une partie de cette fanfare occupait l'entrée de la halle au grain. Et donc, ça faisait un écho vraiment très intéressant avec l'orchestre. Et là, je dois dire qu'il faut féliciter tous les solistes des différents pupitres, qu'on me permette en particulier de féliciter René-Gilles Rousselot, trompette solo, qui joue une partition, mais qu'on dirait injouable. Mais c'est terrible. Et il fait ça avec une aisance formidable. Il faut aussi féliciter Jacques Delaplan.
Il adore ça. Il adore quand c'est très difficile, René-Gilles.
Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça. Mais il y a des aigus, mais stupéfiants.
Oui, le troisième également, Nicolas, troisième trompette. Il y a beaucoup de...
Très
bien passé. Ouais.
Et puis le oboïste Chi Wen Cheng, aussi magnifique.
Oui, hein. Solo de...
Donc, vraiment. Et puis, je voudrais signaler quand même l'utilisation des tuben, ces fameux tubas wagnériens, hein, qui sont joués par les cornistes, hein, du pupitre de cor, avec tous les vents, les cordes aussi chauffées à blanc. Enfin, vraiment, vraiment très beau. Une très belle prestation qui a été très applaudie, vraiment. Et on a observé que le chef n'arrêtait pas de féliciter chaque soliste, et réciproquement, les musiciens ne se sont pas levés à la fin pour que les applaudissements soient dirigés vers le chef. Donc, on sent qu'il y a quand même des liens importants entre les musiciens et Leo Quockmann.
Et c'est réciproque.
Et puis, une dernière chose, à la fin, il y a eu une prolongation de la soirée tout à fait touchante, puisque l'un des musiciens de l'orchestre, le violoniste et compositeur Mohamed Makni, prenait sa retraite. C'était son dernier concert et donc il a été salué par tous ses collègues et par le chef qui lui a apporté un bouquet de fleurs. Donc,
comme le veut la tradition à l'Orchestre National.
C'est une belle tradition.
Les adieux en public lorsqu'un des musiciens prend sa retraite. Serge Krichevski, alors vu de l'intérieur, vous, comment vous l'avez vécu ce concert et cette direction?
Un beau concert, effectivement, un programme intéressant et une symphonie passionnante, donc Eine Alpensymphonie, donc c'est comme un requiem allemand, c'est une symphonie alpestre, une possibilité.
Oui, c'est pas la symphonie
voilà.
Alpestre, c'est
une symphonie alpestre. Qui d'ailleurs au départ était plutôt une œuvre biographique qui commémorait la mort d'un ami peintre. C'est une œuvre qui a été écrite sur pas mal d'années et en fait Strauss l'a reprise en pleine guerre, première guerre, pour la terminer, alors qu'il attendait un livret de Hofmannsthal qui sera La femme sans ombre. Donc une œuvre extrêmement riche. Bon, il a eu le temps de travailler l'orchestration dans les moindres détails. Il y a tous ces épisodes qui sont marqués sur la partition d'ailleurs. Hein. Serge parle de l'épisode des chasseurs. Hein. On passe à côté de chasseurs, on entend toutes les fanfares de cors, de trompettes. Et bon, il y a des choses très frappantes effectivement au niveau de pour l'auditeur, pour le musicien. C'est une œuvre assez physique, hein, quand même 50 minutes d'affilée. Bon, le chef s'en est très bien sorti. On avait d'autres référence avant ça avec des grands chefs, hein, Yannick Nézet-Séguin par exemple, il y a quelques années, pour diriger en étant à l'aise comme il était. C'est une œuvre qui doit chérir et travailler depuis très très longtemps. Voilà, parfois on a comme ça des goûts, des emblèmes qu'on croise dans notre apprentissage et puis des œuvres qui nous accompagnent. Bon, lui, il a bien travaillé, hein, et c'est l'orchestre est toujours du plaisir à jouer ce genre d'œuvre.
Et Unso Kin, on dit ouais,
Kin,
hein.
Kin. Ah, d'accord. On a tous beaucoup aimé globalement. Oui, c'est une œuvre très intéressante, effectivement, qui commence par... Bon, il y a des références subliminales comme ça. Alors, elle a un lien, je crois, très personnel avec les Finlandais. Et puis, donc, voilà, c'est Klaus Mäkelä qui en a fait la création. Voilà, c'est une famille de Finlandais, donc qui est, je pense, son époux. Et donc, ça a permis aussi...
Serge Chaudy, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non, je voulais attirer l'attention sur l'épisode de l'orage de la, oui, de la Symphonie Alpestre.
Ah bah évidemment, vous, ça vous a
c'est
pas échappé.
Incroyable. Oui. C'est vraiment formidable.
Le spécialiste de l'orage que vous êtes, le passionné des orages, oui, a dû apprécier.
Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà. En plus, l'écriture de Strauss est incroyable. Vraiment, elle colle à ce qu'est la physique d'un orage. C'est incroyable.
Et là, on a une parole de connaisseur. Comme on n'a pas tous les jours l'occasion d'écouter de la musique de compositeurs sud-coréens, je le disais tout à l'heure, je vous propose de vous faire écouter et sans doute découvrir celle d'Un Suk-kin avec cet extrait de sa pièce Subito con Forza, dirigée ici par Klaus Mäkelä. Un extrait de Subito con Forza, pièce de la compositrice sud-coréenne Un Suk-kin, jouée ici par l'Orchestre Philharmonique d'Oslo sous la direction de Klaus Mäkelä. C'était une des œuvres au programme du concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole, dirigé lui par Leo Kwokman. Les musiciens de l'Orchestre du Capitole, ou plutôt quelques-uns d'entre eux, étaient de nouveau sur le pont le lundi suivant, le 26 septembre à Saint-Pierre-des-Cuisines, pour le premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. L'instrument qui était à l'honneur, et ça a dû faire plaisir à Serge Krichevski, c'était le hautbois. Et le titre du programme était « Dans les pas de Mozart ». Nous y étions tous les deux, Serge Chaudy. Quels étaient les musiciens et les œuvres que nous avons entendues lors de cette belle soirée?
Alors, il y avait d'abord trois musiciennes des pupitres de cordes, hein, qui, justement, avaient participé au dernier concert de la précédente édition de cette série.
Saint-Pierre.
Donc, il y avait la violoniste Laura Jaillet, l'altiste Laura Esminger et la violoncelliste Aurore Dassès, donc bien connue et bien appréciée.
Qui joue très souvent ensemble en musique, oui, en formation de chambre.
Exactement. Et puis, elles étaient rejointes par un hoboïste, l'un des hoboïstes solo du pupitre, Louis Séguin, donc que l'on apprécie beaucoup aussi, dans ses solos au sein de l'orchestre et dans ses solos en musique de chambre. Donc avec quelques œuvres, bon, évidemment de grands chefs-d'œuvre, avec pour ma part une découverte, c'est-à-dire l'œuvre de Benjamin Britten qui occupait le chœur du concert, une œuvre pour hautbois et trio à cordes, et entourée par deux œuvres de Mozart. Alors il y avait tout d'abord l'œuvre la plus consistante, la plus longue, c'était le Divertimento en mi bémol majeur, le Köchel 563, donc pour trois instruments
à cordes. Trio à cordes.
Trio à cordes, évidemment. Et là, vraiment, on a beaucoup apprécié l'implication, la variation qu'il y avait dans les phrasés, dans le choix des phrasés. Et puis surtout, l'équilibre instrumental.
La cohésion.
Entre les trois. Il n'y avait jamais de dominante. Les trois musiciennes étaient vraiment à égalité dans ce...
On rappelle que ce sont d'abord et avant tout des musiciennes d'orchestre. Qui jouent en formation de chambre, mais elles jouent quand même très souvent ensemble, il faut dire. Hein.
Ah oui, absolument.
En trio ou en quatuor.
Et alors donc, six mouvements quand même à ce Divertimento,
oui,
dont le titre, je crois, un peu trompeur, parce que c'est une œuvre très sérieuse, hein, en fait.
Oui.
Bon, il y a des passages un peu légers, mais il y a par exemple le premier adagio, c'est
oui,
un chant.
Oui, il y a de la gravité aussi.
Grave, hein.
Ben c'est, donc, quand on regarde le Köchel, c'est une de ses dernières œuvres, voilà, un de ses
exactement.
Derniers divertissements, oui. Qui effectivement.
Je pense que c'est marqué sans doute par ce que vivait Mozart à l'époque.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une profondeur de l'expression de ces trois musiciennes qui a fait chaud au cœur, vraiment très bien. Alors, la seconde partie, donc, eh bien, c'était avec la participation du oboïste, donc Louis Seguin, avec d'abord un Fantasy Quartet, opus 2, de Benjamin Britten, une de ses premières œuvres,
hein, oui, opus 2,
il avait 20 oui. ans, hein, donc, courte pièce, de prime jeunesse, et avec une richesse harmonique bien caractéristique
bah,
du
Britten,
style
oui.
de Britten. Hein. Et là, on a pu admirer l'art vocal, on pourrait dire presque, du oboïste, hein, qui est capable de pianissimi aigu, très beau. On croirait par moments une cantatrice, une très célèbre, j'ai pensé à Montserrat Caballé, carrément.
Ouais, ça va lui faire plaisir.
Montserrat Caballé qui sortait du hautbois de Louis Seguin.
Je vais lui dire.
Oui, oui.
On va voir sa réaction.
Ah oui, non, mais c'était vraiment très, très beau. Et puis, dernière œuvre, eh bien, on a retrouvé les mêmes qualités musicales dans le Quatuor avec hautbois. Alors, Köchel 370, une œuvre plus jeune
plus que antérieure que la première.
Que le Divertimento de Mozart, donc, avec ces échanges, cette discussion, on a l'impression d'un dialogue à quatre, là. Hein. Très bien. Et là aussi, on a beaucoup, j'ai pour ma part beaucoup apprécié le passage des phrases staccato, très acéré du oboïste, avec la souplesse de ses legato. Donc, vraiment très, très bien. Et puis, alors, le succès a été vraiment de la partie, hein, et ils ont donc joué un bis. Mais un bis très particulier.
Ils n'ont pas donné le nom, ils disent vous allez reconnaître.
Vous allez reconnaître et sortez les mouchoirs en tine.
Oui, bon, là, elle a peut-être un peu exagéré. C'est Laura Altsminger qui a dit ça. C'est un peu mélancolique, on ne peut pas dire non plus que ce soit
Mais enfin,
déchirant au point d'en avoir les larmes aux yeux
exactement.
Systématiquement.
Alors, c'était une transcription de Christopher Waltham, bien connu, comme il était violoncelle.
Un des musiciens de l'orchestre du Capitole qui a pris sa retraite il y a quelques années, justement.
Oui, exactement. Et donc, il était
actif.
Présent d'ailleurs, et il a fait une transcription du hautbois de Gabriel, c'est-à-dire Gabriel's hautbois,
du
extrait
du film
Mission de Roland Joffé, et donc musique de Ennio Morricone, évidemment. Et donc, la transcription très intelligente, très astucieuse. Donc, et
ça, voilà. C'est le succès garanti quand on
oublie
ça. C'est pas Serge Krichetsky qui va me démentir.
Oui, exactement. Donc, une belle ouverture de saison, absolument brillante et un peu en forme de renouveau.
Serge Krichetsky, vous n'étiez pas présent, mais vous connaissez à la fois les musiciens et le programme qu'ils ont joué. Votre avis sur ce Fantasy Quartet de Britten pour hautbois?
Effectivement, c'est déjà une œuvre, alors contrairement à la Simple Symphony, qui est l'opus 1, c'est déjà une œuvre beaucoup plus mûre, et bon, la maturité de Britten va s'épanouir assez rapidement. Hein. Après, il y aura des œuvres comme les variations sur un thème de Frank Bridge pour orchestre à cordes, il y aura des œuvres comme ça. C'est une œuvre très, très, très agréable, très intéressante. Oui. D'une unité aussi, hein, qui a en un seul mouvement aussi, qui a une forme originale. C'était une œuvre, je crois qu'il a écrite pour un concours, les concours en Angleterre, où on cherchait à primer des œuvres de musique de chambre, à promouvoir la musique de chambre.
Et puis le quatuor avec hautbois qui avait 370 de Mozart, c'est un must du répertoire.
Oui, alors qui est donné par souvent aussi en concours, mais il a une particularité, il a un mouvement lent très émouvant, et il se détache quand même ce quatuor des l'ensemble des œuvres. Bon, il y a le quintet pour clarinette, évidemment, qui est très réussi de la fin de la vie de Mozart, mais par rapport au quatuor avec flûte, par rapport au quintet avec cor, il a quand même cette dimension plus intérieure dans le mouvement lent, et puis une dimension un peu expérimentale dans le final, parce qu'il y a un passage très étrange de superposition rythmique avec deux rythmes qui viennent l'un sur l'autre, et c'est très rare dans l'œuvre de Mozart. Neuf, très, très, très agréable.
Que de merveilles dans l'œuvre pour musique de chambre de Mozart. Voici un petit extrait du troisième mouvement Rondo Allegro de son quatuor avec hautbois KV370 dans une version de l'ensemble du Berliner Philharmoniker. Thank you. le troisième mouvement, Rondo Allegro du Quatuor avec hautbois KV370 de Mozart, interprété par l'ensemble du Berliner Philharmoniker. Prochain concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 21 novembre à 20h, avec le programme Cordes et Accordéons. La 43e édition de Piano aux Jacobins s'est terminée jeudi dernier avec le concert de Nelson Gurner au cloître, mais la veille, à la Halle aux Grains, a eu lieu le récital de Bertrand Chamaillou. Très attendu, comme à chaque fois que le pianiste toulousain se produit dans sa ville natale, Serge Chosy, vous y étiez bien sûr, et vous vous êtes régalé à l'écoute d'un programme Liszt-Messiaen.
Ah oui, oui, oui. Et un peu de Wagner aussi, d'ailleurs, puisque...
Oui, mais revue par Liszt.
Revue par Liszt, évidemment. Bien revue, d'ailleurs. Et oui, il s'agissait là d'un programme très particulier, très ciblé, en quelque sorte, musique sacrée.
Ben, je l'ai entendu cet été à Rocamadour dans la basilique, vous voyez.
Autour donc, du sacre, voilà.
C'était exactement le même.
De certains sacres.
Il manquait que celui de Stravinsky, peut-être.
Oui,
oui, si on veut. C'était plus compliqué, là.
Tout à fait, c'était plus difficile. Non, en l'occurrence, alors je dois dire tout de suite, c'est un concert qui a remporté un véritable triomphe, avec ovation debout, hein, vraiment un succès extraordinaire, qui débutait par cette... marche solennelle, en fait, le titre exact, c'est Feierlicher Marsch zum Heiligen Graal aus Parsifal. Bon, donc on voit le côté
sacré. On voit que vous maîtrisez l'allemand, surtout.
Voilà, et donc, c'est une transcription de Liszt. C'est plus qu'une transcription, c'est une paraphrase, hein, en quelque sorte.
Ouais, donc, d'un air de Parsifal.
Oui, oui, oui. Alors, c'est pas une transcription note à note, je veux dire. Et donc, ce que Bertrand Chamaillou a souligné, c'est cette dualité entre la solennité et la souffrance qui s'insinue dans cette partition. Très beau moment. Ensuite, il est passé à du Liszt. Alors, Liszt, cette fois, avec deux extraits de la première année de pèlerinage, avec d'abord Orage et ensuite la vallée d'Obermann. Alors là, la fluidité de son jeu, évidemment, fait merveille, hein, la virtuosité. Alors, la vallée d'Obermann en particulier, c'est de la pure folie, diabolique, complètement diabolique. Et il a fait ça avec une aisance vraiment incroyable.
Bon, rappelons qu'il avait enregistré l'intégrale des années de pèlerinage il y a maintenant un peu plus de 10 ans.
Et qu'il avait,
qu'il avait joué
dans la même journée, au piano des Jacobins.
Mais vraiment l'intégrale. Hein.
L'intégrale, oui. Hein, oui, ça,
trois années.
C'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, alors, il enchaînait. Alors, c'était amusant parce qu'il y avait un lien très fort entre cette vallée d'Obermann et le premier extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus de Messiaen, qui s'appelle « Regard de l'esprit de joie ». Et c'est très virtuose, justement. C'est vraiment le pendant de la vallée d'Obermann, en quelque sorte. Il a déclenché une débauche de couleurs. Alors, on sait que Messiaen était affecté, si l'on peut dire, de synesthésie, c'est-à-dire qu'il voyait toujours
des couleurs
notes, oui, précises à l'écoute de chaque accord. Donc, là, on a eu l'impression vraiment qu'il en tenait compte dans son interprétation, avec le deuxième extrait de ses 20 regards, qui était une véritable dentelle dans le vent, qui était la première communion de la Vierge. Alors c'est l'opposé, hein, comme expression. Il faut rappeler que Bertrand Chamaillou vient d'enregistrer l'intégrale des 20 regards sur l'enfant Jésus et que c'est
paru il y a quelques mois sous le label Erato.
Et c'est une pure merveille.
Ah, oui, oui.
Vraiment, je le conseille à tout le monde. Hein, c'est magnifique. Et donc voilà pour Messiaen. Et puis retour à Liszt avec cette fois la deuxième année de pèlerinage, avec tout d'abord les trois sonnets de Pétrarque. Donc c'est une pièce unique, hein, mais c'est les sonnets 47, 104 et 123 d'après Dante et donc d'après Pétrarque d'abord puisqu'ensuite c'était toujours de la deuxième année de pèlerinage après une lecture de Dante. Et là aussi, c'est un déchaînement incroyable. Cette pièce a la réputation d'être l'une des plus difficiles de tout le répertoire pianistique. Ça n'effraie pas Bertrand Chamaillou, qui a joué ça avec à la fois panache et profondeur expressive, hein. Donc un grand moment, très grand moment, qui a été tellement acclamé qu'il a dû revenir à 4 reprises.
Mais c'était presque une troisième partie de concert.
Ah oui, carrément. Alors, il s'est adressé au public et il a voulu d'abord rendre hommage au Festival Piano Jacobin qui a un peu accompagné ses débuts.
Il a beaucoup nourri.
Beaucoup. Et donc...
Sa formation de musicien, voilà, la formation de son goût aussi musical.
C'est ça. Et un épisode assez émouvant, c'est quand il a parlé de celui qu'il a croisé alors qu'il était tout jeune et qui s'appelait Vlado Perlmutter, un des piliers de Piano Jacobin aussi, et avec lequel il a discuté de Ravel. Et du coup, il a commencé sa séance de bis par les jeux d'eau de Maurice Ravel. Il l'a poursuivi avec Alborada del Gracioso et puis avec Pavane pour une infante défunte. Vous voyez un peu, trois pièces de Ravel parmi les plus...
Oui, les plus belles et les plus jouées. Plus,
bon. Voilà, les plus caractéristiques. Mais le public n'a pas voulu s'arrêter là, poursuivi ses acclamations. Et donc, il a fini par revenir à Franz Liszt avec sa tarentelle, sa bouillonnante tarentelle qui est extraite du triptyque « Venezia et Napoli ». Donc, vraiment, la générosité était au programme ce soir.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit bien la filiation Ravel.
Oui.
Qui part de Vlado Perlemutter, qui lui a connu Ravel.
A connu Ravel, oui.
Qui était le maître de Jean-François Isser.
Et oui.
Qui lui-même était le maître de Bertrand Chamaillou au CNSM à Paris.
Exactement.
Et Bertrand Chamaillou a enregistré encore une intégrale, celle pour piano seul de Ravel.
Voilà.
Et aujourd'hui, il est directeur artistique du festival Ravel. En Pays Basque.
Eh oui, donc il y a vraiment, c'est vraiment une chaîne
incroyable.
Hein. Ah oui, oui, incroyable.
Voilà, mais donc Ravel est un des compositeurs favoris de Bertrand Chamaillou qui a enregistré, je le disais, son intégrale pour piano seul il y a quelques années, un magnifique CD. Bertrand Chamaillou, j'ai interviewé il y a quelques semaines, un peu avant qu'il donne son concert au festival de Rocamadour, et qui m'avait appris que la première partition qu'il avait eue entre les mains, eh bien c'était Jeu d'eau de Maurice Ravel. Il avait 9 ou 10 ans, Jeu d'eau, une des pièces jouées en bis par le pianiste toulousain le 29 septembre à la Halle aux Grains. Jeu d'eau de Maurice Ravel, un des 4 bis donnés par Bertrand Chamaillou le 29 septembre à la Halle aux Grains. C'est avec cette pièce que nous concluons cette première partie d'émission. Une petite virgule musicale avant de retrouver mes 3 invités dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec les 3 invités de ce numéro, Serge Chosy, Serge Krichewski et Robert Pénavert. Comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, l'Opéra National du Capitole ouvre sa saison cette semaine, précisément jeudi 6 octobre à 20h pour la première représentation de Rusalka, l'opéra d'Antonin Dvorak. Il va y en avoir 4 autres d'ici le 16 octobre. C'est une nouvelle production et c'est une entrée au répertoire du Capitole. Robert Pénavert va tout nous dire là-dessus dans quelques instants. Je vais d'abord donner la parole à Serge Krichewski parce qu'il sera dans la fosse avec ses camarades de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Frank Berman et parce que c'est un grand admirateur de Dvorak et de Rusalka en particulier. Serge, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre du grand compositeur tchèque musicalement parlant.
Oui, sans aucun doute, c'est une œuvre donc tardive de Dvorak puisque il a 60 ans l'année de la création. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dvorak a été très rapidement décrié comme compositeur lyrique, alors je dois dire plutôt d'opéra, parce qu'en fait c'est un très grand mélodiste. Toujours il a eu un très grand génie mélodique, évidemment basé sur le folklore tchèque, qui était à l'époque austro-hongrois, mais en tout cas, bon, voilà, la partie de la bohème à laquelle il appartenait. Cet opéra Roussalka émerge quand même de l'ensemble des 10 opéras qu'il a écrits. Et bon, le 10e qu'il a écrit après, Armide, ayant été un échec assez retentissant, ça a peut-être jeté une ombre sur tous les précédents. Mais en tout cas, Roussalka s'est progressivement imposé, peut-être un peu récemment, mais c'est une musique magnifique. Bon, c'est un opéra romantique, donc les dimensions, c'est 3 actes avec une musique vraiment très écrite, très grosse partie pour l'orchestre, hein, et puis bon, des parties vocales magnifiques. Il y a un air qui est célébrissime qu'on va peut-être entendre, mais et puis une histoire qui plonge dans les racines de la... à la fois la mythologie tchèque, mais donc les contes et les légendes, etc., qui avaient beaucoup impressionné Dvorak à travers l'écrivain Karel Jaromír Erben, et également les références plus lointaines avec Andersen, La Petite Sirène, Ondine de La Motte-Fouquet, et donc le librettiste Jaroslav Kvapil lui tisse un livret qui lui convient parfaitement. C'est d'ailleurs un livret qu'il avait proposé à d'autres grands compositeurs qu'il avait refusé. Dvorak se sent vraiment attiré, appelé par le thème, et il écrit très rapidement, au cours de l'année 1900, cet opéra qui présente alors la confrontation. C'est un conte tragique qui présente la confrontation donc d'une ondine, d'une naïade, en face du monde des humains. Elle tombe amoureuse, malheureusement pour elle, il faut dire, d'un prince humain, et réciproquement, sauf que l'amour ne dure pas, et le fait que l'amour ne dure pas va conduire à la destruction du couple. Hein. Il y a le personnage aussi central, deux personnages centrales un peu antagonistes, le père de Roussalka, qui est le génie des eaux, et la sorcière, Yeji Baba, qui est l'équivalent de Baba Yaga, un petit peu. Bon,
c'est russe, ouais.
Voilà. Donc, ces personnages ayant déjà été l'objet d'un poème symphonique, Dvorak a écrit juste avant cet opéra plusieurs poèmes symphoniques basés sur les récits, les nouvelles de Erben, qui avait beaucoup marqué. Et on retrouve tout ça, construit dans l'opéra, avec des mélodies magnifiques, je pense, Robert va nous en parler, des parties vocales très intéressantes, tout ce monde aquatique, hein, et puis la passion romantique.
Et on va parler du monde aquatique et de la façon dont il est restitué sur scène. Robert Pénavert, entré au répertoire donc pour Roussalka au Capitole, plus de 120 ans après la création de l'opéra de Dvorak. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que cette œuvre soit montée et donnée à Toulouse? Est-ce que c'est lié à ce que vient de dire Serge Krichevski, que pendant pas mal d'années, voire de décennies, c'est un opéra qui a été finalement assez peu joué ou discuté?
Non, pas du tout. Il manque encore énormément, mais c'est normal. Il manque énormément de grands titres au répertoire du Capitole, mais un théâtre ne peut pas tout avoir affiché. Non. Et je pense que Nicolas Jouel voulait le monter Roussalka, et il n'a pas eu le temps puisqu'il a été appelé à l'Opéra de Paris. Mais c'était dans ses projets, voilà. Bon, après, parler de l'œuvre, bon, Serge vient de le faire bien mieux que je ne l'aurais fait. Donc, je vais vous parler des interprètes, alors, si vous voulez bien.
Oui, parce qu'il y a des prises de rôle.
Voilà, il y a beaucoup de prises de rôle. Alors, vous avez parlé de Frank Berman, j'y reviens pas. Donc, la réalisation, c'est Stefano Poda, qui s'occupe de tout. C'est-à-dire mise en scène, décor, costume, et qui nous avait fait une Ariane et Barbe Bleue, oui. Une entrée au répertoire aussi du théâtre du Capitole il y a quelques années, absolument somptueuse. Donc, nous attendons avec beaucoup d'impatience cette version, on va dire, sans spoiler la production, mais c'est une version très aquatique de
alors qu'est-ce qu'on peut en dire sans tout dévoiler? Bon, l'eau va bien être présente sur scène. On peut le dire, ça.
C'est une version aquatique, voilà. J'ai promis de ne pas le répéter, donc de ne pas en dire davantage. Je n'en dis pas davantage, mais voilà.
Il faut aller le voir.
Il y a vraiment des naïades, des sirènes,
on va en voir. Il faut espérer que l'eau sera à bonne température, c'est tout. Voilà.
Oui, vaut mieux.
C'est tout, je ne parle pas pour le public. Là,
hein. Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en scène, des décors, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Quoi.
Eric, n'insistez pas, c'est aquatique.
Non, je n'insiste pas,
mais je ne peux vraiment pas vous en dire davantage.
Allez, là, on va commencer. Il faut y aller aussi pour ça.
Voilà. Alors, prise de rôle très attendue d'Anita Artig, la soprano roumaine que nous avons déjà entendue au Capitole dans Marguerite et dans Violetta. Dans le rôle de Votnik, donc, qui est le roi ondin, c'est un baryton russe que je ne connais pas, Alexei Isaev. Mais bon, bienvenue au Capitole, bien sûr. Pour lui, le prince polonais est un ténor. Alors, c'est bizarre parce que ce rôle, la dernière fois que j'ai entendu Rusalka, c'était un ténor héroïque, en fait, qui chantait le rôle. En fait, c'était Ben Hepner. Et là, je ne sais pas trop pourquoi, finalement. Alors, certes, le rôle est très orchestré, il y a un contre-ut, bref, c'est surtout un rôle très chanté, très lyrique, avant toute chose. Et là, c'est un jeune ténor polonais qui s'appelle Piotr Bujewski, et bon, qui n'a pas tout à fait des rôles héroïques à son répertoire. Quand je dis pas tout à fait, c'est pas du tout. Hein. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'il va en faire. Il y a un rôle très important, c'est celui de la princesse étrangère, et là nous avons la française de l'étape, hein. C'est Béatrice Uria Monzón. Ça aussi c'est un rôle, là pour le coup c'est un rôle très héroïque, qui a souvent été interprété par des sopranos wagnériens. Et puis le rôle de Jessie Baba qu'on évoquait là tout à l'heure, hein, bien sûr, sera confié normalement c'était Janina Bechler qui devait le faire, oui. Mais bon, elle ne peut pas assumer le rôle là pour cette entrée au répertoire, et donc c'est une jeune mezzo britannique, Claire Barney-Jones, que l'on découvrira également au Théâtre du Capitole. Et puis, bon, je voulais souligner que pour la première fois officiellement, mais avec sa tenue de chef titulaire des chœurs du Théâtre du Capitole, le chœur sera dirigé par Gabriel Bourgoin.
Voilà, ouais, qui remplace définitivement Alfonso Cayani, qui est parti il y a maintenant six mois, voilà.
Un an.
Et bon, le poste est resté plus ou moins vacant, enfin, il y a eu des intérims. Et là, maintenant, il y a quelqu'un qui a été nommé officiellement.
Bon, Gabriel Bourgoin, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, est très heureux. Il a à peine 33 ans.
Oui.
Comme il me disait, être titulaire du chœur et de la maîtrise du Théâtre du Capitole, pour moi, c'est...
J'ai rêvé sans doute pour lui.
J'en rêvais même pas. Pour moi, c'est absolument génial.
Oui, juste un mot au niveau musical, l'utilisation du folklore tchèque par Dvorak pour l'écriture de cet opéra, évidemment, doit être mis dans le contexte de l'émergence de la nation tchécoslovaque, future tchécoslovaque, puisque Dvorak, en tant qu'altiste, avait beaucoup joué sous la baguette de Smetana. Smetana est le grand compositeur d'opéra avant Dvorak, sans lequel Dvorak n'aurait pas écrit tous ses opéras. Il y a évidemment des opéras comme La fiancée vendue, Dalibor, enfin les grands opéras de Smetana. Après lui, après Dvorak, il y aura Janáček, que Christophe Christy aime bien, qui apparemment il aime beaucoup la musique tchèque, hein, je pense que Robert nous le confirme. Les Janáček, peut-être qu'il y en aura d'autres après Yenoufa, mais voilà, cette triade, hein, Smetana, Dvorak, Janáček, entre 1850-60 et 1930, nous a donné une musique vraiment extraordinaire. Et voilà, profitez-en, allez écouter Rusalka, de même que vous avez dû aller écouter Yenoufa, j'en suis sûr.
Un mot peut-être sur Frank Berman, que vous avez
un
déjà
chef
eu
qu'on
comme
aime
chef.
Beaucoup, c'est vraiment la solidité, on n'a aucun problème, travaille très bien, et voilà.
Robert, sur Frank Berman.
Oui, bon, ben, nous l'avons entendu récemment, plusieurs fois, pour notre plus grand plaisir, dans La Flûte Enchantée dernièrement, mais auparavant Parsifal, auparavant Electra, et puis on va le rendre cette année dans Tristan, un Tristan dont j'imagine, Eric, nous parlerons à cette émission.
Ah oui, ça forcément. Alors il y a une soprano ukrainienne aussi dans cette distribution qui va jouer une des nymphes, la première nymphe, elle s'appelle Valentina Fedeneva. C'est une chanteuse qu'on va avoir l'occasion d'entendre en solo lors d'un midi du Capitole le mercredi 12 octobre, accompagnée par Robert Gonella au piano. Bon, on va l'écouter dans un des grands airs de Rusalka, c'est celui, je pense, auquel faisait allusion Serge Krichevski tout à l'heure, Le chant à la lune. Thank you. Le chant à la lune, un des grands airs de Roussalka, chanté par Valentina Fedeneva, qui va donc interpréter la première nymphe dans la production de l'Opéra National du Capitole, mais c'est bien à Anita Hartig qu'a été confié le rôle-titre dans cette distribution. Une prise de rôle pour la grande soprano roumaine, 5 représentations donc du 6 au 16 octobre, pour découvrir l'opéra de Dvorak dans la mise en scène de Stefano Poda. Ce samedi 8 octobre, il y a un concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole à 18h à la Halle aux Grains. Un concert qui va être dirigé par la chef norvégienne Tabitha Berglund, Serge Chosy.
Oui, alors c'est un nom connu, Berglund, un certain Paavo Berglund, mais je ne pense pas qu'il y ait des liens.
Non, puisqu'elle est norvégienne et que Berglund...
Sa petite fille.
Ah, c'est quand même... D'accord.
Parce que Paavo Berglund est finlandais, que je sache, non ? Elle est norvégienne. Bon, enfin, bref.
Ah, ben, il y a peut-être eu dans la famille des
Donc, une
des
jeune, une jeune chef d'orchestre qui va diriger d'abord le prélude et mort d'Isolde, le traditionnel extrait symphonique de l'opéra Tristan et Isolde de Wagner, donc... Et puis la première symphonie de Jean Sibelius, donc quand même une symphonie importante pour Sibelius, non seulement parce que c'est la première, mais aussi parce qu'elle a été composée alors que la nation finlandaise à cette époque défendait son indépendance. Donc c'est une symphonie de combat en quelque
sorte. Contre les Russes.
Oui, contre les Russes, mais ça nous rappelle des choses. Alors c'est une symphonie qui initialement, dont les mouvements avaient des titres, puis il les abandonnait après, mais des titres incroyables comme Le vent froid qui souffle de la mer ou Le pin du nord rêve aux palmiers du sud. Enfin, vous voyez des titres un peu incroyables. Donc, mais c'est une magnifique symphonie, donc que l'on sera heureux de découvrir. Donc samedi après-midi à 18h.
Oui, Happy Hour, c'est le samedi après-midi, toujours à
18h. Et c'est à peu près une heure de musique.
Bah, comme le nom l'indique. Une heure heureuse. Serge Krichevski, vous l'avez joué, vous, la première symphonie de Sibelius ?
Oui, je l'ai joué. Je crois que ça commence par un très long solo de clarinette, je pense. Hein, voilà, oui. Bah, moi, j'aime énormément Sibelius, toujours très heureux d'en faire. Bon, là, je n'y serai pas, mais voilà, on a. Et alors là aussi, on parlait des opéras de Dvorak qui mériteraient d'être montés en Europe de l'Ouest. Il y a toutes les symphonies qu'on ne joue jamais. La quatrième, fabuleuse quatrième. La septième, voilà. Et on joue la 2 beaucoup, la 1 un petit peu aussi, et la 5, 1, 2, 5. Les autres, quasiment... bon. Et en plus, bon, il y a aussi plein d'œuvres symphoniques de Sibelius, notamment, oui, qui font référence aux légendes de Finlande et Scandinave. Qui sont...
Tapiola, notamment.
Oui, oui.
Nous allons écouter un extrait de la première symphonie de Sibelius, le début du troisième mouvement Scherzo, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et c'est encore Klaus Mäkelä qui est à la baguette pour diriger la musique de son compatriote. Thank you. Le début du troisième mouvement Scherzo de la première symphonie de Sibelius, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Klaus Mäkelä. C'est donc la chef norvégienne Tabitha Berglund qui dirige cette œuvre à la Halle aux Grains samedi 8 octobre lors d'un concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole commençant à 18h. Il nous reste quelques minutes, alors je vais demander à Robert Pénavert de nous dire un mot sur le programme du midi du Capitole que donne Valentina Fedeneva, mercredi 12 octobre à 12h30 au Théâtre du Capitole, bien sûr, accompagné au piano par Robert Gonella. Quels airs, quelle mélodie va chanter la soprano ukrainienne, Robert? Il y en a beaucoup. Hein.
Voilà, c'est un programme très riche, très généreux, puisqu'elle va démarrer avec rien moins que le Dovesso de Figaro, l'air de la comtesse. Ensuite, ce seront des mélodies de Tosti, Bellini, Donizetti. Il y a une première partie donc, qui est chantée en italien, puisque ça se terminera avec l'air de Nedda, de Payas. Et la deuxième partie débutera, avec, pour la laisser se reposer un peu, avec une mélodie de Rachmaninoff, mais pour piano, solo, que nous jouera évidemment Robert Gonella. Ensuite, un air rarement entendu, l'air de Natasha de Loplichnik, qui n'est pas très très connu. Ensuite, elle va renchaîner avec des mélodies de Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov et évidemment Dvorak. Ensuite, bon, mais évidemment, c'est tout à fait logique, légitime, une chanson folklorique ukrainienne. Et elle terminera le programme officiel avec deux mélodies de Rachmaninov. Je crois savoir qu'il y a des bis, mais bon, ça dépendra de...
En tout cas, c'est un programme généreux.
De l'accueil du public.
Généreux et copieux.
Dans tous les cas, si le public applaudit, je pense qu'elle reviendra pour des bis particulièrement intéressants. Je ne peux pas vous en dire davantage. Voilà.
Eh bien, pour la seconde fois dans cette émission, nous allons écouter Valentina Fedeneva. Elle chante ici un des airs au programme de son midi du Capitole le 12 octobre. Et Susanna non vendiove sono, extrait des Noces de Figaro de Mozart. Et Susanna non vendiove sono, un air extrait des Noces de Figaro de Mozart, chanté par Valentina Fedeneva. C'est une des pièces au programme de son midi du Capitole le 12 octobre, à 12h30, lors duquel Robert Gonella va l'accompagner au piano. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous trois, Robert et les deux Serge, d'en avoir été les invités. Ça a vraiment été un plaisir de l'animer avec vous et de vous retrouver autour de la table de ce studio. Je rappelle donc Roussalka, l'opéra d'Antonin Dvorak, est donné pour la première fois à l'Opéra National du Capitole du 6 au 16 octobre, dans la mise en scène de Stefano Poda, avec Anita Artig dans le rôle titre, et avec l'Orchestre National du Capitole dans la fosse sous la direction de Frank Behrmann. Il y a 5 représentations les 6, 9, 11, 14 et 16 octobre. Les places sont à réserver et acheter en ligne sur le site www.théâtreducapitole.fr. Et c'est sur ce même site que vous pouvez faire vos réservations pour le Midi du Capitole de Valentina Fedeneva, mercredi 12 octobre à 12h30. Toujours au Théâtre du Capitole, je signale les 2 représentations de Daphnis et Alcimadure, l'opéra en occitan de Jean-Joseph Cassania de Mondonville, les 12 et 13 octobre à 20h, dans la version des Passions de Montauban et du Chœur Les Éléments. Il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment au Théâtre du Capitole, regardez bien la programmation. Pour le concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole, samedi 8 octobre à 18h à la Halograin, dirigé par Tabitha Berglund. Réservation et achat des places en ligne sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Et enfin, je rappelle aussi que le Festival Toulouse Les Orgues a lieu du 5 au 16 octobre et que les détails de la programmation et la billetterie en ligne sont disponibles à l'adresse www.toulouse-les-orgues.org. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de rester fidèles à notre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine musicale.